Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Qu'est-ce qu'on dit des gilets jaunes à l'étranger? Comment les grandes plumes de l'intelligence internationale voient l'affaire? C'est la question que vous vous posez ce matin.
Pour l'instant, les grandes plumes de l'intelligence internationale se gardent de livrer sur la révolte française des gilets jaunes des avis bien tranchés. Ou bien la France ne les intéresse plus, ou bien ils réservent leur jugement pour plus tard. Je guette depuis des jours une réaction sur le site Project Syndicate où écrivent en anglais, espagnol, arabe, russe, mandarin les intellectuels publics les plus fameux du monde dont on ignore bien souvent les noms en France. En vain. Seul notre BHL national s'y est risqué, mais ça ne compte pas puisque justement il est de chez nous. Non, je tablais sur un étranger véritable, suffisamment éloigné de nos querelles de Gaulois pour être capable d'un regard distancié. Tout ce dont nos médias ont paru étrangement incapables, eux qui nous ont habitués à tant de vigilance et d'ironie envers les politiciens professionnels, mais qui ont manifesté une si étonnante complaisance envers les porte-paroles de ce mouvement et même les plus discutables. Or voilà qu'hier, Project Syndicate a mis en ligne en anglais le premier texte consacré aux « Yellow Vests ». Tous les Européens, écrit Guy Verhofstadt, c'est l'auteur de ce texte, l'ancien Premier ministre belge et le président du groupe ALDE au Parlement européen, tous les Européens, dit-il, devraient s'inquiéter de voir en France, je cite, « un mouvement qui avait débuté comme une protestation décente de classe moyenne contre une nouvelle taxe sur les carburants, détournée par des agitateurs de l'alt-right qui utilisent leur mouvement comme une plateforme pour vomir la haine et des mensonges. » Je cite toujours. D'une manière ou d'une autre, beaucoup de partis et mouvements populistes en Europe bénéficient d'un soutien financier du Kremlin. Les preuves d'une interférence d'argent sale en provenance de Russie dans le référendum au Royaume-Uni s'accumulent. De son côté, l'alt-right, venu de l'Amérique de Trump, exploite les peurs et mine les tentatives sérieuses d'apporter des solutions réellement globales aux défis posés par les migrations et par le changement climatique. Bien sûr, poursuit Guy Verhofstadt, l'urgence commande d'abord de lutter contre la propagation de fake news qui alimente la vague populiste et eurosceptique. Malgré l'état catastrophique que se trouve aujourd'hui la Grande-Bretagne du fait de son choix de quitter l'Union européenne, cette vague n'a pas été stoppée, contrairement à ce qu'on pouvait croire encore l'année dernière. Et il suffit pour s'en convaincre de consulter le sondage publié hier par l'Opinion, enfin ce matin par l'Opinion, un sondage de l'IFOP. Selon son sondage, les partis d'extrême droite, Front National et Debout la France, sont crédités aujourd'hui du tiers des intentions de vote aux élections européennes. Les troubles sociaux favorisent toujours les partis qui se réclament de l'ordre. Comment certains ont-ils pu imaginer le contraire?
Alors si on revient, si vous voulez bien, à Guy Verhofstadt, Brice, quelles conséquences voit-il pour l'Europe, lui?
Il estime que les critiques formulées par les populistes envers le fonctionnement de l'Union européenne manquent leur cible. Parce que le problème de l'UE, ce n'est pas qu'elle en fait trop au détriment des souverainetés nationales. Non, le problème de l'UE, dit-il, c'est qu'elle en fait trop peu, trop lentement, trop tard. Oui, l'Union européenne doit changer, mais certainement pas de la manière dont le voudraient les partis eurosceptiques, en se réfugiant derrière les barrières nationales. L'UE, écrit l'ancien Premier ministre belge, doit devenir, je cite, « beaucoup plus démocratique, plus transparente, plus souveraine ». Alors on a envie de lui demander comment concilier ces trois objectifs qui ne sont pas nécessairement compatibles, parce que la démocratie, on le sait, elle exige le respect de procédures qui ralentissent les processus de prise de décision. Elle requiert de larges consultations en amont, un niveau élevé, aussi élevé que possible, de consensus, et puis des possibilités d'aménagement des règles en fonction des situations particulières. Alors on voit bien aux réformes qu'il propose que c'est la réactivité et l'efficacité que privilégie Verhofstadt. Primo, il réclame un exécutif européen renforcé et réduit. Au lieu de cette pléthorique commission à 28, un vrai gouvernement de 12 membres, 12 ministres. Le Parlement européen, de son côté, devrait recevoir, dit-il, la pleine compétence législative. Enfin et surtout, la prise de décision à l'unanimité de mise dans la plupart des politiques européennes devrait cesser, car elle permet à des États de bloquer les décisions et d'obtenir des avantages particuliers en échange de leur futur acquiescement, et il cite Orban. Mais par-dessus tout, implore Verhofstadt, l'UE doit changer de paradigme. La préservation du statu quo, l'obsession de la stabilité, ne sont plus de mise dans le monde tel qu'il est. Il y a des urgences. Créer une armée européenne pour cesser de dépendre de l'Amérique de Trump pour notre sécurité. Réaliser un marché européen du numérique afin de faire émerger des GAFA européens. Se doter de garde-côtes et de garde-frontières européens pour cesser de confier le contrôle des flux migratoires à des voisins qui ne nous voulent pas que du bien, comme la Turquie.